À l'antenne de CKRL 89.1, nous sommes le vendredi 27 mai 2012 et c'est La vie en BD. Bonne soirée à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Toujours un plaisir de vous retrouver les vendredis soirs pour parler principalement de bande dessinée. Ce sera presque exclusivement de ça dont on parlera ce soir, avec un petit aparté également vers la sphère du jeu vidéo. C'est Sam Murdoch tout à l'heure qui va s'intéresser aux adaptations de BD, mais en format vidéo. Alors comment ça fonctionne un peu? Quelles sont les réussites? Quels sont les navets? Et selon lui, quelles sont les raisons de faire des adaptations de bande dessinée sous format jeu vidéo, en passant ou non par le format filmique. Également côté chronique, et d'ailleurs en fin d'émission, on aura le plaisir de jaser avec Marco Duchesne, qui lui va venir, entre autres, nous parler de l'envers de son métier de libraire. Il est libraire chez Pantoute. Alors, qu'est-ce que c'est ce travail-là? Comment ça fonctionne? Le lien également qu'on peut faire avec la sphère BD-esque. Alors ça, c'est pour les chroniques de cette semaine. Sinon, côté rencontre, eh bien notamment une BD qui se passe en hiver, et je me suis dit, avec la température qu'il fait, ça semble être fort à propos qu'on parle de ce livre qui originalement était censé être sous-titré Quelques arpents de slush, et ça, ce sera probablement demain s'il pleut ce soir. Ça s'appelle Fahrenheit 14, deuxième tome de la série Lionel et Nougat. Alors, co-auteur André-Albert Goulet sera de passage pour nous parler de ce volume. Également, de passage, Samuel Quentin, auteur du livre Phobie des moments seuls. C'est le troisième de ces livres que les éditions Pow Pow avaient lancé l'automne dernier. On n'avait pas encore eu l'occasion d'en parler. C'est un livre, je peux pas parler de BD dans ce cas-ci, puisque c'est un peu un livre illustré, il y a un côté BD-esque, mais c'est d'abord un journal intime. On va parler de tout ça avec l'auteur, donc ce sera en deuxième tranche d'émission. Et sinon, côté actualité, petite mention au passage, faut dire qu'en Europe notamment, il y avait quelques différends à savoir qu'est-ce qu'était un auteur de bande dessinée. Jusqu'à maintenant, en fait, le régime fiscal là-bas favorable à la création était réservé seulement aux scénaristes, aux écrivains et aux compositeurs. Eh bien, nouvelle qui est sortie cette semaine sur les sites de BD, un peu partout sur le web, eh bien maintenant, les illustrateurs sont considérés à part entière comme des auteurs et donc accès à ces différentes mesures. Ça vise, dit la décision, et j'ouvre les guillemets, à corriger corriger une situation jusque-là fortement discriminatoire à l'égard des illustrateurs. Et de quelle manière ça peut s'appliquer dans la sphère BD? De quelle manière ça s'applique, en fait? Ben, exemple, Albert Uderzo, pour les 24 premiers tomes d'Astérix, il était illustrateur, et donc quand il était venu une question de droit, et c'est de là que cette affaire-là était née, d'ailleurs, je crois, eh bien, il avait tenté d'obtenir... on lui avait demandé plutôt de rembourser les droits d'auteur qu'il avait reçus pour les 24 premiers tomes d'Astérix. René Goscinny étant considéré, selon cette loi, comme le seul et unique auteur de ces volumes. Uderzo avait dit, ben là, j'ai été illustrateur, j'ai été co-auteur. Ils ont dit, ben non, l'illustrateur n'est pas un auteur. Eh bien, voilà, donc, décision qui est renversée et qui fait que lui peut également, et tous les autres illustrateurs peuvent, en toute légalité, recevoir, donc, ses droits d'auteur. Ah voilà, donc petite note au passage. Et sinon, ben comme à chaque semaine, on vous propose également une sélection musicale. Cette semaine, on a été faire un tour du côté de Berkeley, en Californie. Il doit faire beaucoup plus beau là-bas qu'ici, avec le travail de Jake Atlas, alias Thriftworks. De la musique électro à saveur remix, avec un peu de 8 bits également là-dedans. Donc c'est pas inintéressant, on s'en met un peu à l'oreille au cours de cette heure. Et d'ailleurs, un extrait dès maintenant. Thank you. Et toujours à la vie en BD, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y a des adaptations qui se font, pas simplement du cinéma aux jeux vidéo, et il y en a qui passent par la BD, qui font le chemin BD-cinéma-jeux vidéo, ou BD-jeux vidéo directement, et ce sera le sujet de la chronique de Sam Murdoch pour cette semaine. Mais tout d'abord, Sam, bonjour.
Salut Raymond.
Ça va bien?
Ben oui, bonne tempête.
Oui, bonne tempête, effectivement.
Belle tempête.
Et de ton côté, enfin, on peut le mentionner au passage, tu es en train de préparer un petit voyage du côté de l'Europe, tournée musicale pour toi, mais également, on avait parlé l'automne dernier de ton recueil 32 dents, recueil d'illustrations, qui va être lancé également du côté de l'Europe avec une exposition aussi.
Ben oui, présente ma vie en présentant en français Angoulême. Le prochain truc qui se passe, ça s'appelle à Bordeaux, ça s'appelle Bar d'Images, donc qui est un festival de bande dessinée qui dure 3 semaines là-bas. C'est il y a les villes sœurs Québec-Bordeaux qui fêtent leur 50e anniversaire. Puis il y a Sol S, qui est un musicien de Bordeaux, qui est tombé en amour un peu avec le concept sur les dents l'été passé quand il est venu à Québec. Puis il m'a demandé s'il voulait faire une exposition là-bas. Puis on fait des agrandissements, des magnifiques agrandissements encadrés de chacune des illustrations de 32 dents. Donc une expo qui dure 3 semaines pendant le festival. Puis ce qui est drôle, c'est que tous les BDistes québécois qui ont fait une résidence en bande dessinée retournent. Donc Vincent Girard, Philippe Girard, Pascal... Pascal Girard,
Francis
Dernay, Pierre Bouchard.
Et d'ailleurs, j'en profite pour mentionner, autant pour Angoulême que pour le Festival de la BD de Bordeaux, on aura l'occasion d'en reparler en détail ici à l'émission, puisque le 10 février, il y aura un spécial Angoulême, et au début du mois de mars, on reviendra également sur le Festival de Bordeaux avec quelques-uns des artistes québécois qui s'y trouvaient.
Et donc, ceci dit, ce qui arrive, c'est que présentement, donc 2 semaines là-bas en France pour lancer le livre, et pour, moi, je suis pas à temps plein illustrateur ou bédéiste. Je voulais pas aller en France pendant 2 semaines pour faire une soirée dédicace, une soirée lancement. Je vais aller là-bas faire de la musique. Donc, quelques concerts avec mon projet Oromocto Diamond. Donc, pendant ce temps-là, je suis en train de faire de la musique. Je suis en train d'organiser le truc de BD. J'ai pas lu aucune nouveauté en 2012.
Mais t'as ressorti ta DS, t'as ressorti ta Wii.
J'ai ressorti. Ben non, ce qui est arrivé, justement...
On décante un peu avec les jeux vidéo.
J'ai mon espèce de sujet de prédilection. Quand on s'est rencontrés, toi et moi, pour parler de l'émission de bande dessinée, on s'est rendu compte qu'on était les deux fans de jeux vidéo et qu'on connaît quand même pas mal les jeux vidéo. Je connais beaucoup les jeux vidéo aussi. Puis là, je me suis retrouvé cette semaine à jouer à Tintin. Donc, The Adventure of Tintin, mais The Game.
Ce qui est inspiré du film, qui est inspiré des BD. Et là, c'est la transcription en jeu.
C'est la transcription en jeu. Puis ce qui arrive, c'est que, en plus, ben, tantôt, Marco Duchesne, qui est là tantôt, qui est la cerise sur la fin de l'émission, qui vient à première issue la fin de semaine. Là, j'étais à première issue, puis là, j'étais en train de parler. Eux jouent aux jeux les plus récents, les jeux les plus exceptionnels. C'est des jeux comme Skyrim, des gros jeux vidéo, donc de l'heure. Moi, je me retrouve à jouer sur ma console portable un jeu de Tintin. Puis j'ai pensé, non, ils ont fait quand même plusieurs adaptations de bandes dessinées, tu sais, qui trompent un peu dans le produit dérivé. Mm-hmm. Souvent, tout ce qui est animation, tout ce qui est film, finissent par faire un jeu vidéo.
Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et le problème, en fait, c'est justement, comme tu dis, si la seule raison de faire un produit, c'est pour des raisons mercantiles, c'est peut-être moins plaisant, peut-être moins motivant pour suivre un peu le personnage qu'on apprécie en BD dans une adaptation comme ça.
C'est certain, puis l'affaire, c'est que c'est des franchises. Donc, tu sais, souvent, on parle de bande dessinée américaine, tout ce qui est comique, tu sais, les trucs, les Batman, des trucs qui ont 75 ans, qui ont 60 ans, 50 ans. C'est donc une franchise. Il n'y a pas un item au monde, en passant par les T-shirts, les Crocs, et puis les guitares électriques, qui n'a pas une image de Iron Man ou quelque chose de comic book. Même chose pour la bande dessinée qui est moins connue, c'est la bande dessinée européenne. Où est-ce qu'ils ont fait beaucoup d'adaptations? Pis c'est drôle, c'est des séries qui ont une espèce de prestige. T'sais, on parle des séries. Dernièrement, j'ai commencé à relire Torgal, qui est une excellente série, qui est bien dessinée.
Et il est dans le jeu vidéo aussi?
Qui ont fait un jeu vidéo, oui. Ils ont fait un jeu vidéo de Torgal en 2002.
Moi, je me rappelle les Astérix sur Nintendo, Super Nintendo, quand j'étais jeune.
Ben, c'est ça, le début de l'époque, le Nintendo, Super Nintendo, début des années 90, c'est tous des jeux de plateforme, un peu à la Mario Bros. Donc, ils ont fait ça pour Tintin, ils ont fait ça pour Bully Bill, ils ont fait ça pour Astérix. du côté manga, les Dragon Ball, il n'y a pas une série, il n'y a pas une console qui n'a pas eu un jeu Dragon Ball en deux dimensions, ou est-ce que c'est un jeu de plateforme qui était un peu des versions un peu diluées de Mario Bros, un peu moins de contenu, mais avec des images, puis c'est con parce que c'est des super bonnes histoires en comic, c'est des super bonnes histoires, puis souvent c'est difficile de faire une adaptation en film, des fois c'est
Et en jeu encore plus difficile aussi faire, à un certain degré.
Souvent, c'est ce qui est encore plus détestable, c'est qu'à chaque fois qu'ils font l'adaptation, qu'ils font le film Green Lantern, ils font le film Batman, donc ils adaptent le film en jeu vidéo, donc là on est encore plus loin du matériel source. Puis donc moi j'ai joué à travers les années à plusieurs de ces jeux-là en étant fan. Puis souvent, soit c'est des histoires qui sont inspirées de la bande dessinée ou inspirées de l'univers. Puis Torgal qui a une espèce de super Rosinski qui a un super beau trait, qui dessine toujours à la main, à l'encre, et c'est super bien fait. Puis ils font une espèce de jeu en trois dimensions, un peu à la Resident Evil, point and click. Donc où est-ce que c'est un jeu d'aventure, où est-ce qu'on clique, et puis il y a une espèce d'histoire, un peu les Vikings. Flop. Quand même flop. Mais c'est ce qui arrive souvent, c'est des mauvais jeux, puis ça veut pas dire que c'est pas des jeux qui vendent quand même.
La BD elle-même vend, et donc, nécessairement, c'est pour ça qu'ils le font. C'est parce qu'il y a cette demande-là au préalable. Là,
non, c'est ça. Puis c'est ce qui est drôle, parce qu'après ça, c'est à cause que la franchise appartient à quelqu'un d'autre, pas nécessairement l'auteur, qui font quelque chose. Van Ham, donc, qui fait Torgal, qui est auteur. Aussi, 13, la série 13, donc, qui est une super bonne série. T'sais, la série est... t'sais, le mystère, les conspirations et tout. Puis tu s'adaptes assez bien aux jeux vidéo. Fait que là, ils ont essayé à chaque fois de faire des jeux vidéo. Puis des trucs plus ou moins réussis. En fait, un tir à la Doom, un first-person shooter, dernièrement, 13, mais qui est adapté par Ubisoft et fait par des Américains, donc qui, eux, lisent la bande dessinée. Puis 13, dans la bande dessinée, se réveille sur une plage. Se fait dans la première bande dessinée de 13, il se fait réveiller par une espèce de couple sur le bord d'une maison, puis c'est une espèce d'histoire, je sais pas, il y a quelque chose de plus...
De plus
relevé et touchant. Fait que là, au final, ce qui arrive, c'est que dans la bande dessinée, dans le jeu vidéo version 13, il se réveille sur la plage, il y a une fille qui court vers lui, à la Baywatch, en bikini, il se retrouve, tout le monde est en bikini à la plage, puis là, il est sur la plage, il se fait tirer par du monde, et des guns, et des hélicoptères. Donc, tout de suite, ils veulent mettre comme de l'action autour du jeu, des mauvaises critiques, puis c'est décevant, parce que ils font l'adaptation, puis ça tue un peu.
En fait, c'est presque à se demander pour les fans, pourquoi décider de prendre 13, outre pour le branding, parce que si on n'en retient rien au niveau de l'histoire, si on profite pas justement de la mythologie, entre guillemets, qui est développée, et si on compare un truc comme ça avec, exemple, une adaptation comme Batman Arkham Asylum, un peu plus récente, ou Arkham City, où là, on a réussi justement à aller exploiter un certain univers, un pan de la mythologie Batman, de manière beaucoup plus efficace.
C'est ça,
la franchise sert à quelque chose.
Non, tout à fait. Puis on a fait quand même beaucoup. Ce qui arrive en comic book américain, on a vu, il y a des gens qui ont joué aux jeux vidéo, qui n'ont pas lu le comic, qui n'ont pas vu les films, les Batman, les Spider-Man, les Iron Man, qui en ont fait plusieurs. Il y a Marvel qui ont toujours l'espèce de côté. Puis c'est hallucinant parce que Marvel et DC, c'est deux espèces d'entités qui ont de l'argent à l'infini. T'sais, ils ont de l'argent à l'infini. Ils peuvent dépenser pendant des années sur la conception de jeux vidéo parce que ça coûte cher et tout. Dernièrement, tu parles d'exemple, c'est ce qui est arrivé à l'automne dernier. DC qui sort Batman, un jeu qui s'appelle Arkham City, donc qui est la ville de Gotham, qui est reconstruite en entier, qui est super belle, des super belles textures, une bonne histoire, tout en tant que c'est un excellent jeu vidéo. Graphiquement, quelqu'un qui aime même pas le jeu vidéo ludique peut trouver le jeu joli quand même. Un mois avant, Marvel décide de sortir un jeu qui s'appelle X-Men Destiny, basé sur les X-Men, donc Cyclope, Wolverine, toutes les X-Men. Un jeu qui ont développé en un an seulement. Le jeu, les critiques, c'était pas des 3 sur 10, 2 sur 10. Un espèce de flop qu'ils ont fait, mais qui était là pour faire de l'argent. Puis le jeu a vendu quand même beaucoup de copies. Puis à Québec, le gros jeu de Québec depuis des années, c'est Spider-Man. Donc Beenox, qui après avoir fait des adaptations de Tony Hawk, des adaptations de B-Movie, des trucs un peu plus animation, se retrouve à faire Spider-Man. Donc il y avait, qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement? C'était le, je sais pas si c'était sur place, le lancement du dernier Spider-Man.
Sur l'immeuble.
Binox, sur Charest, ouais.
Quand même assez impressionnant, là, le projecteur, ouais, là, un immense projecteur.
Puisqu'il y a une espèce de fierté d'avoir un jeu qui vend comme assez bien, produit à Québec, fait à Québec, testé par des gens de Québec qui boivent du Coke puis qui mangent des donuts. Donc, c'est le fun que ce soit à Québec que ça se passe. Mais encore là, ça fait des jeux basés un peu mitigés sur la critique, un peu moyens.
Et justement, dans ce contexte-là, Sam, ouais. Si on a envie de poursuivre un peu l'exploration BD en jeu vidéo, si on y va en liste, là, en rafale, ouais. En à peu près une minute, là, ce serait quoi les titres incontournables qu'on va ressortir nos vieilles machines, qu'on va acheter des nouvelles ou qu'on va chercher des émulateurs, je sais pas.
Oui, tout à fait. Ben, incontournables, ce qui arrive souvent en deux dimensions, les quelques mois, mes coups de cœur, Batman, qui ont fait avec des Animated Series. Mm-hmm. Batman Return, qui était au Genesis Super Nintendo. Deux dimensions, beau graphique, pas trop de bugs, des jeux qui étaient assez honnêtes. Les trucs qu'ils ont fait du niveau de la France, souvent, c'est drôle comme une espèce de... juste comme une curiosité. Les Tintins, qui étaient en deux dimensions. Tintin au Tibet, qui était quand même très, très fun, mais c'est un jeu de plateforme qui est quand même un peu vieilli. Sinon, ce qui arrive, c'est du côté du jeu vidéo. Moi, ce que je conseille, c'est les... dernièrement, tu disais Batman Arkham City. Mm-hmm. Qui était quand même un excellent jeu. Puis les autres, si vous êtes fan de la bande dessinée, vous connaissez la mythologie, je pense que c'est quand même sympathique d'aller chercher le jeu. Sinon, allez voir sur YouTube la vidéo de Torgal pour voir comment Torgal en dimension est assez laid. Et, ceci dit, on joue en France. À mon retour, on va faire une partie B. Au lieu de parler de bande dessinée adaptée en jeu vidéo, on parle de jeu vidéo adapté en bande dessinée. Ce qu'ils font maintenant dans les années 2000, depuis les années 90. Donc, il y a plein de Mass Effect, Halo, War, Dead Space, Immortal Kombat en comic. C'est un peu détestable aussi, mais...
Mais pour d'autres raisons.
Oui.
Sam Murdoch, merci beaucoup.
Merci.
Et on souhaite une bonne tournée, un bon séjour en Europe.
Bonne tempête.
Merci.
Je m'en vais à Paris.
Oh. On est jaloux un peu. Pour des bonnes raisons. Alors, ben, Sam Murdoch, merci beaucoup. Et oui, toujours à la vie en BD ici sur les ondes du 89.1 CKRL. On vous invite d'ailleurs à aller visiter le blog de La Vie en BD. Vous trouverez les podcasts des éditions précédentes, lavieenbd.wordpress.com. Et toujours côté musique, quelques extraits de l'album Rainmaker de la formation Thrift Works. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un petit extrait de la pièce Your All. Et ben maintenant, on parle BD d'action, trailer, tome 2 d'une série qui s'appelle Lionel et Nougat. Ça s'appelle Fahrenheit 14. C'est disponible chez les 400 coups. Et on a le plaisir d'avoir un des auteurs avec nous au bout du fil, André Goulet. Bonjour.
Oui, bonsoir, Raymond.
Alors, ben en fait, je disais, pour présenter un peu la BD, là, BD d'action, saveur d'enquête, de thriller, c'est un peu ça, là, l'ambiance de Lionel et Nougat.
Oui, tout à fait. C'est une série policière, une série d'aventures. Comme il dit policière, on peut appeler ça de façon ou d'une autre. C'est un peu ça, oui.
Et qu'est-ce que vous avez donné envie de vous lancer, vous et vos co-auteurs, Ghislain Duguay, Michel Vaillancourt, sur ce terrain-là, vers ce type de BD-là?
En fait, bon, c'était une commande principalement de notre dessinateur, Ghislain Duguay, qui malheureusement ne peut pas vous parler ce soir parce qu'il était en déplacement. Il habite à Sept-Îles et puis il ne peut pas vous parler ce soir, donc c'est moi qui ai le privilège de vous parler. Lui, Ghislain, ce qu'il voulait faire dans le milieu des années 90, c'était principalement de dessiner l'Amérique des années 50. C'est un fan de, des voitures, des costumes de l'époque des années 50. Et on s'est rencontrés, et puis on a cogité ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire. Moi, je voulais faire une BD qui était québécoise, authentiquement québécoise. Alors, je me suis associé avec Michel Vaillancourt, un co-auteur, et puis on a pondu un scénario qui a manifestement plu à Ghislain, et puis depuis ce temps-là qu'on travaille. On a commencé à faire la BD, donc, vers les années 96-97. Mm-hmm. On l'avait envoyé en Europe, une première mouture, le projet avait été refusé à l'époque. Et puis, on a mis ça un peu sur la glace. On a retravaillé notre projet. Et finalement, là, ça a abouti, là, un bon 10 ans plus tard, 10-12 ans plus tard, là, et c'est les 400 coups qui ont accepté notre projet, puis... C'est parti, on est sur les rails.
Et justement, en fait, si on compare la période de développement du tome 1 versus le tome 2, le tome 2 qui s'est fait de manière beaucoup plus serrée, beaucoup plus rapide, sur l'élan un peu de la bonne réception qu'avait eu le premier, j'imagine que ça a rendu le contexte de création peut-être un peu plus facile aussi pour l'équipe?
Oui, vous l'avez dit, plus facile, et puis c'est le rythme qu'on préfère. Nous, on aime travailler là, de façon rapidement... Là. Le premier, ça a été difficile. On a remis le travail en question souvent, on l'a repris, etc. Ça n'a pas été facile là, pour la première publication, mais même si on était fiers du résultat. Mais là, le deuxième, là, on avait le vent dans les voiles, on peut dire, et le troisième est bien engagé aussi, et puis on s'attaque au quatrième, enfin...
Et toujours, est-ce que vous aviez dès le départ un plan de match là, sur plusieurs épisodes ou c'est vraiment de voir un peu comme à chaque tome, dans le fond, d'apporter une nouvelle direction à l'histoire, des nouvelles perspectives?
Bien, en fait, nous, depuis le début, on voulait créer, c'est un cycle qu'on voulait faire. Mm-hmm. Un peu à l'instar de bande dessinée européenne, plutôt. Au Québec, on voit un peu moins ça, il y en a quelques-uns qui en font, là, mais... disons, nous, on voulait faire un cycle de 4 ou 5 albums. Et puis, donc, on s'en est tenu à notre plan de match. Une histoire qui est quand même assez alambiquée. Là.
Il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait.
Oui, il y a beaucoup de rebondissements. En fait, nous, au départ, on voulait faire le type de BD qu'on aimait lire. Là. On s'en cache pas. On retrouve peut-être plus souvent ce type d'histoire-là, ce type d'intrigue-là en Europe. Mais on voulait quand même, on tenait un produit, là, quand même une histoire très québécoise là, qui se passe ici. Mm-hmm. Mais on tenait à faire 4 ou 5 albums, un cycle de 5 albums, et c'est ce qu'on nous a un peu reproché. On a des éditeurs qui aimaient notre projet, mais qui trouvaient que c'était costaud. C'était de vouloir faire plusieurs albums, mais on s'en est tenu à notre plan de match. Et on ne le regrette pas aujourd'hui parce qu'on travaille sur le troisième et le quatrième album. On arrive à la conclusion de notre cycle et puis on est très heureux de ce qu'on a fait.
Et comme vous le disiez, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des réponses, il y a des éléments qui font écho à des choses qui ont été développées dans le premier. Il y en a d'autres qu'on semble préparer aussi pour le troisième. Donc, ça permet une certaine liberté, j'imagine, au niveau scénaristique. On peut jouer un peu avec ça. On peut voir quelles intrigues on développe, qu'on conclut, créer un rythme aussi, jouer un peu avec tous ces éléments-là. Là.
Exactement. Mais je vous rassure tout de suite, Raymond, à la fin du cycle, le quatrième album, tout va se conclure, on va tout comprendre.
Ce sera pas comme dans Lost.
Voilà.
Et justement, en fait, on le mentionne depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, il y a un tueur en série, il y a des kidnappings, il y a des personnages qu'on développe, il y a un regard sur le Québec des années 50, un peu au point de vue religion. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais oui. D'emblée, je me disais, quand on détaille cette histoire-là, on la compose, on la scénarise, comment on fait pour pas s'y perdre, pour s'assurer aussi que chaque élément est suffisamment développé pour être cohérent, mais vient pas empêcher les autres de se développer aussi de manière adéquate?
Bien, on a quand même établi des priorités. Les priorités sont les suivantes. C'est que dans les années 50, si vous regardez, c'est là que se sont développés beaucoup de mariages au niveau des pétroliers, des compagnies pétrolières, des deals pétroliers, mm-hmm. Qui aujourd'hui nous affectent encore. Autrement dit, notre économie et notre... notre façon de vivre nord-américaine et occidentale est basée sur des deals pétroliers qui ont eu lieu, qui ont été signés, qui ont été préparés dans les années 50. Donc, tout ce monde du pétrole-là, cet univers du pétrole, c'était un peu notre toile de fond.
Mm-hmm.
Aussi, au niveau québécois, il y avait un autre élément qui était important, c'était la venue de la télévision. Nous, on considère que la télévision, c'est ce qui a un peu fait notre société, notre société particulière au Québec. Je pense que qu'est-ce qui fait notre force d'aujourd'hui, je ne dis pas que on le doit à la télévision seulement, mais ça a amené beaucoup de choses à la télévision. Donc, ces deux pôles-là, ce sont nos deux un peu en toile de fond, on les retrouve dans Lionel Hinouga. Et on a amené aussi d'autres éléments. Bon, c'est ça, au niveau de la religion, le Québec qui voulait se sortir de la grande noirceur, tout ça. C'est présent aussi, mais là-dessus, on n'a pas voulu inciter. On a gardé nos deux pôles principaux, qui sont le pétrole et la télévision. Et puis là-dessus, ben, on se lance dans l'aventure.
Oui, parce qu'effectivement, en fait, c'est la religion elle-même, c'est surtout présente par le cardinal, en fait, Paul-Émile Pesant. On laisse les gens comprendre le jeu de mots là-dedans, qui vient ponctuer un peu cette action-là, puis apporter un regard extérieur et extrêmement tendancieux sur certaines des actions et certains des mystères, dans le fond, qu'on développe et qu'on dévoile au fil de l'album.
Oui, c'est vrai, mais chaque album du premier cycle va avoir sa propre couleur. On apporte des éléments qu'on peut retrouver dans les années 50, dans le Québec des années 50, parce que on a fait quand même des recherches, là, nous, les scénaristes, là, puis aussi notre dessinateur, évidemment, mais on a fait des recherches où on va chercher des éléments qui sont comme une espèce de type qui... un maniaque au couteau dans les rues de Montréal. Ça existait dans les années 50, ça a fait la une des journaux. Il n'y a personne qui avait été arrêté à l'époque comme tel. C'était probablement quelque chose, une rumeur urbaine, comme on l'appelle. Mais on a gardé cet élément-là, on l'a amené dans notre bande dessinée. Il y a même chose... À chaque album apporte de différentes couleurs qu'on peut retrouver dans l'histoire du Québec et de Montréal des années 50. Mais on n'insiste pas plus qu'il faut. Là. C'est juste ce sont des couleurs comme ça qu'on amène. Là.
Oui, ben en fait, il y a un plaisir pour le lecteur, justement, avoir une ambiance qui est solide, qui est cohérente, qui est structurée. Puis après ça, on dirait que ça permet le passage à l'action principale, d'embarquer dans cette action-là peut-être plus facilement, parce que l'univers qui entoure l'action est plus est très cohérent et logique, etc.
Mais je pense que oui. En fait, on n'a pas voulu faire des traités d'histoire lorsque on a voulu amener des couleurs, des éléments, mais dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est s'amuser. C'est une comédie policière. Comme on pouvait les voir, moi, je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan de films des années 50, pas parce que j'étais pas là quand ils étaient en film, mais à cause de mon père, de mes oncles, j'écoutais souvent des films des années 50, Eddie Constantine, des films avec beaucoup de rebondissements, des poursuites, des bagarres, des rebondissements des fois qui n'avaient pas d'allure, et c'est un peu ça qu'on a voulu... transcrire dans notre bande dessinée avec vraiment le talent de Ghislain, qui lui s'apporte très bien à ce qu'on voulait faire. C'est que c'est un dessin qui est semi-réaliste, à la limite de la tarte à la crème, là, sur certaines cases, là, et puis ça sert très bien notre propos.
Effectivement. Oui, mais en fait, j'aurais tendance à le croire aussi. Et donc, tout ça avec ce deuxième tome, donc qui est dans la poursuite de l'histoire. Donc le prochain, vous allez nous entraîner dans le New York des années toujours 50. Donc encore là, quand vous dites, ben, à chaque album, on amène une autre ambiance, un autre univers, mais ce sera le cas là. Vous vous dépaysez, vous allez nous dépayser un peu en route vers le prochain. Là.
Ben, on l'espère, non, le prochain, là, on s'est vraiment lâché lousse, comme on peut dire, parce que on avait envie de faire un album. Là, c'est New York, c'est Broadway, c'est la grande variété, le grand banditisme. On a essayé d'amener ça à un autre niveau, moins tout en restant québécois, là, c'est son héros qui sont pris dans cet engrenage-là. Là. Et en même temps, on veut des couleurs. Donc, c'est Lionel Inouga, mais maintenant sous les néons de New York.
Alors, ben, d'ici là, donc, on peut retrouver Lionel Inouga sous les tempêtes de neige et dans la slush de Sainte-Euclide et des environs, bref, de la campagne québécoise. Donc, le tome 2 de cette série qui s'appelle Fahrenheit 14, qui est disponible, on le rappelle, au 400 coups collection Rotard. André Goulet, merci.
Je vous en prie, tout plaisir était pour moi.
Inversement.
Et j'espère que vous avez de la belle neige à Québec, parce qu'ici, c'est vraiment pas beau. Moi, je suis dans le nord de Montréal, là. J'espère qu'à Québec, vous avez de la belle neige et que vous pourrez avoir un beau carnaval si il peut s'ouvrir.
Oui, ben ça va être demain, d'après moi. Merci beaucoup, M. Goulet.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Ici l'homme en noir venu vous donner rendez-vous avec la peur. Sentez vos mains se refroidir, vos cheveux se dresser, vos genoux trembler. Votre sang se glace à l'idée d'assister au spectacle « Rendez-vous avec la peur ». À l'Expo Théâtre de la Visitation, du 16 au 26 février, la troupe Minute présente des histoires à faire frissonner. Si vous avez le courage, réservez au 418-563-6791 ou visitez troupeminute.com.
89.1 L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Vous avez l'oreille curieuse, vous recherchez des sons différents, vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Funk, soul, groove, afrobeat. Le vendredi 18h30, les rythmes de Jean-Baptiste Duvignon et Goulvendi font exploser CKRL. C'est 100% dynamite.
CKRL.
Pré est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418 529 3829.
La vie en BD qui se poursuit ici au 89.1 jusqu'à 18h30. Raymond Poirier toujours avec vous. Je vous incite également à devenir adepte de l'émission sur le réseau de socialisation Facebook. C'est la vie en BD-CKRL 89.1. C'est très simple à trouver. Et bon, on vous parle depuis à peu près le début de l'année de quelques titres dont on n'a pas eu le temps de vous parler l'automne dernier. On est un peu en mode rattrapage et on poursuit ce mode avec un album, un livre qui est sorti aux éditions Pau. Ça s'appelle Phobie des moments seuls. L'auteur Samuel Quentin est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en fait, Phobie des moments seuls, j'ai envie de le décrire, en fait, de le présenter en disant que c'est le journal intime d'un grand enfant, l'astronaute, docteur, d'une expédition dans l'espace, de son meilleur ami, un panda, de compagnon d'équipage et d'anecdotes assez particuliers. On flirte avec l'absurde, en fait, dans Phobie des moments seuls.
Ouais, quand même, ouais. C'est le journal intime d'un médecin qui est sur une mission spatiale. Il raconte son quotidien, puis c'est sur un décor de science-fiction, mais j'ai l'impression qu'on s'adore plus sur comme l'absurdité de la vie quotidienne, puis à quel point c'est encore plus absurde que tout ça se passe dans l'espace.
Oui, en fait,
c'est un thème de science-fiction, mais tout est très absurde.
Très, très absurde et très quotidien aussi. J'aurais presque envie de dire anodin. On est loin de Star Wars et Star Trek, là.
Ouais, exact. Puis le fait que ce soit, en fait, un, c'est littéralement comme un journal intime, tu sais, où il met les dates, puis il dit comme aujourd'hui est arrivé ça. Fait que c'est le format est quotidien à cause de la forme, dans le fond, il fait vraiment un journal intime où il raconte ce qui s'est passé dans sa journée. Fait que c'est ça, je me dis, même si t'es dans l'espace, t'es en mission, il y a des journées plates, il y a des journées où c'est juste comme si tu connais avec ton ami, ou je sais pas, où t'as pas aimé ce que t'as mangé, ou qui te juste les. C'est super quotidien, puis j'essaie d'éviter, dans le fond, les. Il n'y a rien de grandiose, puis il n'y a rien de sci-fi. C'est juste comme le. C'est un fond sci-fi, mais c'est super. C'est super comme du niveau observational un peu, là, comme les comics américains diraient, mettons, là, c'est un peu c'est le quotidien, mais sous une forme.
En fait, j'ai bien aimé à un moment donné où dans le récit, justement, Marcus Pigeon, le narrateur, dit ben on part en mission, on s'organise, on s'en va. Puis là, on part tout de suite au retour. Dans le fond, c'est vraiment pas la mission elle-même qui vous intéressait non plus, j'imagine, en tant qu'auteur. C'est vraiment plus ce côté quotidien-là et les manières de compter aussi, on disait naïve, enfantine, un peu imbue d'elle-même aussi à certains regards. Donc c'est jouer un peu avec ça et avec comme on dit, la vie quotidienne dans la station. Là.
Ouais, la mission a rien à voir dans le fond. C'est juste comme d'amener ces personnages-là, puis de les mettre dans une boîte, puis qu'est-ce qui arrive, tu sais. C'est juste du jeu des dynamiques de pouvoir entre les personnages, dans le fond, tu sais. Il n'y a pas vraiment. L'histoire se résume à ça, tu sais. Il y a quelques petites trames narratives, mais le reste, c'est plus comment ces personnages-là interagissent entre eux, tu sais. C'est comme un huis clos dans une boîte métallique qui va dans l'espace.
Et qu'est-ce que vous avez intéressé dans le format journal intime?
Ben, moi, je suis un méga fan de journaux. De journal intime, mettons, de mémoire, de les, tu sais, je lis, comme un de mes livres préférés, mettons, c'est les mémoires de Casanova, genre, tous ces livres-là, je trouve, j'adore le style, qui est vraiment comme pompeux parfois, mais qui aussi, qui rassemble tout, qui a plusieurs niveaux de langage et de thèmes, mettons, tu sais, si tu lis un mémoire de Casanova, il peut philosopher une page, puis de l'autre page, il parle d'une sorte de sexe complètement à la bande, genre. Mm-hmm. Puis c'est ça la vie, tu sais. Puis, dans le fond, moi, je lis beaucoup de mémoires comme ça, puis de journaux intimes à la base. Fait que c'était facile pour moi, puis c'était le fun de pasticher ça un peu, tu sais. De faire de. Comme si Marcus, une fois, je me plaisais à y faire écrire des tournures de phrases comme assez pompeuses, genre, mais en bout de ligne, c'est naïf, tu sais. Il voudrait que ce soit bon. Il voudrait que ce soit comme des vraies mémoires, mais il est trop naïf pour que ce soit sérieux, tu sais.
Oui, ben en fait, ça donne l'impression quand si on se porte à l'analyse de chaque personnage, qui ont tous une vision un peu grandie d'eux-mêmes, en fait, versus ce qu'ils sont réellement, là.
Ouais, c'est drôle que tu parles de ça, parce que je parlais tantôt avec un ami, puis je me disais que c'est ça la clé, dans le fond, de ce que moi, je trouve qui est drôle dans Phobie, c'est que tous les personnages, à part peut-être le personnage du panda, ont une vision dénaturée d'eux-mêmes, tu sais. Le commandant, c'est pas du tout ce qu'il pense, qu'il projette quelque chose qui est pas du tout ça. Même chose pour Marcus, sa vision de sa relation avec sa femme est complètement pas ce qu'elle est en réalité. Tous les personnages ont comme de la misère à se voir tels qu'ils sont réellement, genre.
Et ça donne des anecdotes ou des moments assez cocasses, que ce soit justement comme vous le mentionnez avec la blonde de Marcus ou avec le commandant qui a une non-acceptation de sa sexualité qui tourne autour du comique, parfois un peu ridicule aussi, là.
Ouais, vraiment, ça c'était comme tellement facile d'écrire des jokes et tout ce personnage-là, parce que juste le fait que c'est un homosexuel non avoué, puis pour essayer de pas de combattre ça, de cacher ça. Lui, tu sais, puis il y a du monde comme ça qui vont juste comme il en parle trop, tu sais. Il veut juste traiter tout le monde de ta tête, je sais pas quoi, puis c'est comme tellement évident qu'il y a lui-même un problème avec sa propre sexualité, tu sais. Fait que c'est drôle, puis c'est triste aussi dans le fond, quand tu penses à vraiment penser que ce gars-là s'accepte pas, tu sais, mais c'est juste comme ça amène tellement de situations cocasses. C'était comme ça, vraiment du fun. Avec ce personnage-là.
Et parallèlement, Samuel Quentin, vous le mentionniez tout à l'heure, en fait, le panda qui est peut-être le plus raisonnable, en fait, de cette ménagerie de personnages-là, mais paradoxalement, parce que c'est le personnage qui, au premier abord, est le plus absurde. Je veux dire, c'est un panda qui parle, qui est comme toi puis moi, dans le fond, c'est...
Mm-hmm. je trouvais ça drôle de faire de ce personnage-là comme la seule personne à laquelle tu peux un peu t'identifier moralement, tu sais, que tu, qui est comme un peu un gars normal, qui a comme des intérêts. C'est un peu comme un bro, tu sais, c'est comme le bro de Marcus, puis je trouvais ça drôle de le faire comme un panda, mais qu'en bout de ligne, ce soit quasiment le plus humain de la gang, tu sais. Mm. C'est un peu ça la joke.
Et avec Phobie des moments seuls, on est à la limite entre... Ben en fait, on peut pas vraiment parler de BD non plus. C'est presque un livre illustré.
C'est vraiment un livre illustré. Puis comme je trouve ça le temps de garder comme le texte manuscrit, comme si c'était vraiment le journal de Marcus. C'est sûr que c'est pas entendu que, mettons, les dessins qui sont là sont dessinés par Marcus, mais tu sais, le texte est écrit à la main. On peut comprendre que c'est Marcus qui écrit ça. Puis les illustrations-là sont comme un peu des figments de sa pensée. T'sais. C'est un peu des résumés visuels de ce qui s'est passé. Puis c'est souvent comme le punch. Mm-hmm. Punch du gag, un peu. T'sais.
Et est-ce que l'écriture démarrait un peu par le dessin, où on avait un punch visuel, ou au contraire, c'était vraiment, on écrit le texte, puis ensuite, on voit un peu comment qu'est-ce que le dessin peut lui apporter?
C'était tout par le texte. Toujours tout par le texte. J'ai tout écrit comme sur mon laptop, là, vraiment comme si j'écrivais le vrai journal jour par jour, qu'est-ce qui est arrivé là. Puis je me disais, la fois, je me mettais des notes, okay, qu'est-ce que le dessin pourrait être pour ça, mais souvent ça se faisait vraiment après. Mm-hmm. J'écrivais l'histoire en mots, puis après j'ajoutais les dessins toujours en fonction de ce qui se passait. Des fois, j'avais l'idée d'un dessin que je voulais faire, puis j'écrivais autour de ça, mais ça venait, la plupart du temps, ça venait par le journal.
Et tout ça aussi est démarré sur un blog qui est devenu un livre. Comment s'est passé un peu le passage d'un format à l'autre? Parce que, nécessairement, en fait, des fois, on se dit, ce qui marche sur un blog, en livre, faut le retravailler un peu pour cadrer avec le nouveau format de distribution.
Ouais, vraiment. Moi, c'était comme au début, c'était quotidien. Pendant les comme 3 premiers mois, je publiais quotidiennement, puis tu sais, c'était vraiment comme gag. Vraiment orienté comme, tu sais, une entrée, un jour, un peu de texte, un dessin, un punch. Puis, à peu près aux 3/4, non, pas 3/4, même après 3 mois, j'ai commencé le blog en novembre, puis comme en janvier, Luc Bossé, qui est le gars derrière Pow Pow, les éditions Pow Pow, mm-hmm. m'a écrit, il avait vu le blog, puis on s'est rencontrés, puis ça a bien été, puis on s'est dit qu'on allait le faire en livre. À partir de ce moment-là, ça a même un peu changé la manière dont je faisais les entrées. J'ai arrêté de publier sur le blog pendant un bout. Je me mettais à travailler puis à accumuler des pages. Ça s'est transformé un peu comme... moi, je le remarque dans le livre. Je sais pas si les gens le remarquent, mais vers la fin du livre, il y a beaucoup plus d'actions séquentielles. Il y a beaucoup plus de... juste des conversations, mm-hmm. tu sais, qui durent peut-être comme 5-6 pages, au lieu que ce soit juste un texte puis un gag visuel. Mm-hmm. Il y a vraiment des séquences où les personnages se parlent. Il y a pas de cases, là, ni de bulles. Ça vient pas de la BD, mais il y a plusieurs séquences qui sont plus longues. Ça, c'est juste parce que je les publiais plus sur le blog. Je les faisais, j'empilais les pages à côté de moi. J'étais comme, ah, mais je peux continuer ça. J'ai pas besoin de le poster sur le blog cet après-midi, tu sais. Mm-hmm. Je peux continuer cette idée-là. Je peux l'approfondir. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime le début, que c'est super punchy, puis j'aime aussi la fin du livre où c'est plus en continu, puis il y a plus une trame narrative, puis ça, c'est juste à cause de la manière... C'est juste à cause que j'ai su que ça allait être un livre. Ça a changé, ça a altéré ma manière d'écrire puis de concevoir ça.
Et Phobie des moments seuls, donc je le rappelle, c'est disponible chez Pow Pow, donc ce journal intime décalé, absurde, qui fait sourire, c'est indéniable, qui est disponible. Et est-ce que on pense à soit faire un deuxième tome, ou est-ce qu'il y a déjà d'autres projets autour de la sphère BD qui sont en train de se développer de votre côté?
Ouais, là je suis en train de travailler sur une autre BD qui va être... BD plus traditionnel, ce sera pas comme un journal intime illustré. C'est une BD avec des cases, des bulles, tout. Je suis en train de faire ça en ce moment. Puis, peut-être comme je vais pour une sortie vers l'automne, peut-être. Puis, c'est sûr que je vais faire une suite à Phobie, puis je vais recommencer à publier sur le blog bientôt, parce que j'ai comme plein d'idées par rapport à... Comme il y a un personnage qui est introduit vers la fin du livre, que je suis comme... Oh my god, pourquoi j'ai pas amené ce personnage-là plus tôt? J'ai comme plein d'idées de trame par rapport à lui, fait que ça me pousse à vraiment continuer, puis
mais
j'ai envie d'en faire d'autres.
on va continuer à suivre tout ça. Et si les gens veulent visiter le blog aussi pour avoir une idée, c'est momentseul.blogspot.com. Samuel Quentin, merci beaucoup.
Et merci à toi, moi.
Ah ben voilà, donc Samuel Quentin, je rappelle, auteur de Phobie des moments seuls. On prend une courte pause et au retour, Marco Duchesne. Et voilà, dernier petit extrait donc de Thrift Works, la pièce Minions qu'on vient d'entendre. Et on a le plaisir d'accueillir avec nous Marco Duchesne. Bonjour.
Salut.
Marco Duchesne qui est, rappelons-le, libraire chez Pantoute. Et justement, cette semaine, je t'ai convié, on s'était rencontré notamment avec la revue de l'année qu'on a fait en début d'année. On s'est dit, faudrait se donner d'autres opportunités de se croiser. Et pour cette première chronique, pour cette première intervention, je me dis, j'ai envie de parler peut-être un peu du travail que je fais. Qu'est-ce que c'est être libraire? Qu'est-ce qu'on fait, là?
Ben, en fait, Raymond, je vais te dire franchement, comme j'ai beaucoup aimé mon expérience la dernière fois, quand je suis venu, et je suis très content et fier de participer à une émission qui parle de BD, parce que c'est rare qu'on parle de BD à l'année. Il y a souvent des occasions comme un festival de BD, où là, oui, les médias s'en mêlent, les journaux, la radio, la télé. Et après ça, c'est silence radio. On a pu... Alors, il y a très peu de chroniqueurs dans les journaux qui en font. Bref, je suis très content de voir qu'il y a du monde qui parle de BD à l'année. Et d'avoir participé à ton émission, ça me rappelait de souvenirs, car j'ai fait des chroniques à différentes émissions, radio, télé, tout ça. Et je me suis dit, alors là, s'ils m'invitent, je vais essayer de me faire inviter un peu plus souvent. Alors quand tu m'as envoyé ton message, j'ai dit, ah, ok, là, je vais vraiment préparer mon cours. Et là, je me suis dit, soyons, je vais donner le goût aux gens de voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que je fais comme métier? Comment ils peuvent se servir de moi?
Exactement, parce qu'en dehors de placer des livres...
Voilà, alors là, c'est bien beau d'être libraire, mais qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qui fait que moi, je peux vous aider à choisir ou à trouver de nouvelles choses à lire ou les choses dont vous attendez? Mmh. Être métier, être libraire, en fait, pour avoir une idée de ce que c'est, je vous référerais à un ouvrage de référence qui s'appelle Animal Lector. Animal Lector, c'est un strip qui est publié dans Spirou Magazine. Il est animé par Selma, l'auteur de Nathalie, au scénario, et au dessin par Libon, qui nous avait fait la BD chez Dupuis, le Jacques, le petit lézard géant. Un truc très rigolo pour jeunesse. Mm-hmm. Alors, ils animent un strip où ils mettent en scène un libraire qui vend de la BD. Une fois par semaine, dans Spirou, on peut lire une histoire, un gag, un strip, et qui est à la verticale, au lieu d'être à l'horizontale, il est à la verticale, et qui raconte des histoires de libraire. Et là, je vais te dire, depuis trois ans que c'est que le strip est dans le magazine Spirou, je m'y reconnais. En fait, Animal Lector, c'est moi. Et chaque strip amène ses clients, amène des nouveaux clients. Et là, je peux mettre des noms sur les clients. C'est-à-dire qu'on a tous les genres, le jeune qui cherche la nouveauté ou les mangas, le vieux qui cherche ses vieilles séries, ses rééditions, le collectionneur qui cherche la première édition de... Bref, de tout. Et là, on voit, et le libraire, Animal Lector, lui, vit au rythme
des saisons. Parce qu'un libraire, ça vit au rythme des saisons. L'hiver, l'été, la rentrée, l'école. Bref, si vous avez le goût de voir de ce que c'est l'envers du décor, de mon décor, lisez Animal Lecteur. Il y a deux albums de parus. Un troisième s'en vient au printemps.
Et ça donne un bon jeu justement pour explorer un peu, voir d'un point de vue humoristique, parce que aussi en fait nous en tant que clients, en tant que lecteurs, on peut parfois se reconnaître dans le genre de questions.
Tout à fait, mais bon,
on dit toujours qu'il n'y a pas de ça de questions, on remarque. Là.
Voilà, et tu sais, et d'utiliser le libraire comme là, tu vois, j'ai envie de te donner des cues sur, tu sais, on est en janvier. Eh bien, pour nous, pour le lecteur, il peut paraître un peu, c'est janvier, il n'y a pas beaucoup de sorties de gros titres en janvier, toutes ces fêtes avant Noël, le lecteur se dit, bon, il n'y a rien à lire, j'en vois qui passe, l'air un peu
penaud
devant les étalages et se demande, bon, qu'est-ce... Alors, le cue de ça, c'est que nous, en janvier, comme il y a un décalage avec la France... Souvent, ce qui était prévu en décembre, c'est pour Noël en France, c'est les sorties de intégrales, coffrets, de beaux livres. Alors, c'est une belle occasion en janvier de voir apparaître ces intégrales-là, ces coffrets qui contiennent soit un cycle au complet ou soit toute l'histoire. Et c'est une belle occasion. Je crois, de se dire, ah, ben tiens, si je me payais une bonne histoire au complet, de demander où le calibre, et souvent, on a le droit à des... le prix est souvent le même, mais ça vaut la peine si on veut investir dans de la bonne BD.
Oui, en fait, profiter de ce type d'édition-là, ben oui. de regrouper un peu les best-of, les séries,
voilà, et autres. Voilà, et les éditeurs ont compris la chose, et on voit souvent des trucs. Entre autres, mon cue de ma chronique, tiens, d'aujourd'hui, ça serait de vous dire qu'il est rentré chez l'association, même les petits éditeurs. On sait que l'association a eu des problèmes à un moment donné, mais là, c'est rétabli et ils se remettent à faire des choses. Et ils ont décidé de mettre en un seul volume l'Ascension du haut mal de David B., qui était paru en sporadiquement, en petits épisodes, un peu difficile à trouver à l'époque, mal distribué. Et maintenant, il est disponible en un seul. David B., il raconte un fait de jeunesse, c'est-à-dire sa vie familiale, qui a été passablement assez trouble à cause de son frère qui avait des problèmes mentaux, faisait de l'épilepsie, entre autres, et tout. Et il nous raconte tout ça, c'est vrai, en noir et blanc, si on peut, on connaît un peu le style de David B., avec cette espèce d'imagerie un peu moyenâgeuse à certains moments. Ses rêves souvent font appel au chevalier, au Moyen-Âge, au dragon. Là. Et c'est vraiment intéressant. Alors, ça vient de rentrer en un seul intégral. C'est un peu dispendieux, mais bon, je crois que pour cette qualité d'ouvrage-là, ça vaut la peine.
Et donc, l'idée étant, évidemment, de transformer ce désert en un désert, certes, mais ponctué d'oasis qui éventuellement se regroupent et font une mer, si je poursuis l'analogie.
Oui, tout à fait. Alors, c'est tout ça, c'est ces occasions-là que si jamais tu décides de me faire venir, je pourrais vous donner d'autres cues. Ce qui se passe en librairie.
Et justement, parallèlement, Marco Duchesne, tu m'as mis dans les mains, avant d'entrer en studio, La marche du crabe d'Arthur Depin, le deuxième tome.
Et voilà. Il est paru tout frais et il sort à peine de la boîte. Raymond, tu regardes, il est encore tout chaud.
Oui, il y a encore l'odeur.
Il y a encore l'odeur.
Ça sent la France.
Ça sent la France, effectivement. Ça sent le container qui a voyagé sur l'Atlantique. Non, en fait, un tome 2, très attendu. Arthur Depin qui, maintenant, je pense, nous confirme avec cet album-là qu'il est un auteur de BD à part entière. On rappelle un peu, il a commencé chez Feu de la Ciel avec ses péchés mignons, ses petites histoires coquines avec ses personnages de jeunes filles à grosse tête, à gros yeux et surtout à forme fort savoureuse, je pourrais dire. Et ensuite, il nous avait donné Zombielenium, une série grand public, fort agréable à lire, pleine d'humour et qui est... Il nous avait montré qu'il pouvait être un grand storyteller, en français peut-être un grand raconteur d'histoire. Et là, le premier, il avait fait, il y a deux, trois ans, un dessin animé qui s'appelait La Révolution des crabes. Et ça se trouve sur Internet. Allez taper sur, j'ai vérifié, il est encore là. Allez taper sur YouTube ou je sais pas trop quoi. Tapez la révolution des crabes et vous allez avoir le dessin animé de 5 minutes qui correspond à peu près au premier tome sur la vie du crabe. Qu'est-ce que c'est que la marche du crabe? C'est tout simplement l'histoire des crabes carrés, une espèce en France.
Des crabes de cage, ouais, de plage. Là.
Ouais, et qu'ils ont la particularité de marcher que dans une seule direction, sur un axe de travers. Uh-huh. Ils marchent comme ça. Alors, dans le premier tome, on nous raconte comment ça peut être pénible. Ils marchent d'un endroit à un autre et quand ils sont bloqués, ils reviennent. Et ça. Et c'est l'histoire d'un de ces crabes-là, entre autres, ils n'ont pas de nom. Quand ils rencontrent un autre crabe, ils ne se nomment pas. Et un de ces crabes-là va commencer à réfléchir. Pourquoi je fais ci? Pourquoi on est comme ça? Et il va commencer à se nommer. Alors, lui va s'appeler Soleil parce qu'il est de est en est, ouest en est. Et les autres vont avoir des noms comme ça. Et lui va commencer à avoir un truc. En se plaçant sur un autre crabe qui marche perpendiculaire, ils peuvent se déplacer.
Dans les deux sens.
Dans les deux sens. Et là, tout ça va créer une révolution. Et là, on suit, en tout cas le premier tome, on suivait ça avec beaucoup de... Et il se passe un autre récit, les humains. Les humains, eux, il y a des documentaristes qui veulent faire un documentaire sur les crabes. Et en même temps, il y a un pipeline qui s'installe. Et là, dans le premier tome qui était assez touffu, on se demandait bien comment serait, parce que c'est une trilogie. Mm-hmm. Alors, on se demandait bien comment ça serait. Et le tome 2, alors, est sorti, je l'ai lu, et je vais vous dire, c'est non seulement un grand raconteur, mais il est capable de tricoter des scénarios assez complexes. Parce que là, à la fin du premier, le crabe, pour éviter, avec la peur, pour éviter le naufrage d'un bateau, il a réussi à tourner. La révolution est à nos portes, Raymond. Mm-hmm.
Les crabes vont nous envahir.
Et là, il se dit, ah non, on n'arrivait pas à tourner, c'était pas à cause de notre carapace, c'est parce qu'on était cons. Et là, dans le tome 2, s'installe une révolution. Il y a les crabes carrés qui marchent douette, qui ne veulent pas que ça change. Il y a les crabes qui tournent, qui veulent que ça change. Et là, ils vont s'affronter. Ils sont manipulés par des tourtereaux ou des homards qui, eux, ne veulent pas que ça change parce que si ça change, ils vont manger beaucoup plus de choses. Et là, la chaîne alimentaire va être bouleversée. Soleil, c'est ça que tu allais me poser comme question, mais Soleil, lui, il est dans les bas-fonds. Il est en train d'apprendre ce qui s'est passé dans l'évolution pour que le crabe carré soit comme ça. Et quel est son destin? Parce qu'il a un destin, Raymond. Mmh. Soleil a un destin.
Et tout ça dessiné dans un style assez graphique aussi, assez épuré.
Voilà, et il nous change un peu de ce qu'il faisait avec Zombielenium, avec ses péchés mignons. Et là, il nous va avec quelque chose d'épuré, ses personnages, ben, les crabes et tout ça est assez straight, assez carré, assez minimaliste. Et les couleurs sont bien appliquées. Quand ça se passe chez les humains à la plage, c'est très lumineux, jaune, rouge. Et quand ça se passe dans la mer, gris, bleu. Et quand le soleil est dans les bas-fonds, c'est plus sombre, plus noir. Alors, si vous avez aimé le premier, vous allez être conquis avec le deuxième. Et là, l'intrigue s'installe.
Et si on n'a pas lu le premier, ben on lit le premier.
Vite, on lit le premier. C'est la trilogie. Ça va être un fait marquant. J'espère que le troisième va sortir assez rapidement.
Et on mettra le petit vidéo sur le blog. Tiens, pour ceux qui n'ont envie d'aller explorer YouTube, ben on le mettra sur le blog un peu plus tard aujourd'hui. Marco Duchesne, merci beaucoup.
Plaisir.
Et je rappelle donc conspiration, la marche du crabe, tome 2, l'empire des crabes d'Arthur Depin qui vient tout juste d'arriver en Québec. Et on se dit à la prochaine.
Hey, ciao.
Voilà. Alors ben nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve évidemment vendredi prochain, toujours à partir de 17h30. Vendredi prochain notamment, on porte un regard sur les prix BDLIS édition 2011. Également, on reçoit François Lapierre pour son album La Bête du Lac.